Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
C'était chaud, hein. C'était un gros suspense quand même pendant pas mal de temps et je pense que dans tout ça, on a eu un petit peu de chance.
Il peut souffler, le directeur de course du Vendée Globe, le navigateur Kevin Escoffier est sauvé. Il a été récupéré par Jean Lecam après 11 heures sur son radeau de survie. On vous raconte cet incroyable sauvetage qui s'est passé en deux temps. Pour lutter contre la propagation du Covid, quelles sont les mesures les plus efficaces et celles qui le sont moins? Une étude menée dans près de 80 pays permet d'apporter des réponses. Gérald Darmanin, devant la commission des lois de l'Assemblée hier soir, soutien aux forces de l'ordre, mais le ministre de l'Intérieur reconnaît des problèmes structurels dans la police. L'affaire du décès de la petite Fiona, quatrième procès aujourd'hui devant les assises du Rhône. La mère Cécile Bourgeon comparaît libre. Et puis dans ce journal, dossier spécial sur l'état du marché de l'auto. Les ventes de voitures neuves s'effondrent, le marché de l'occasion bondit, tout particulièrement l'électrique.
Juste après ce journal, le Bitcoin, la monnaie virtuelle qui profite de la crise et qui atteint un niveau historique. C'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. La réaction iranienne en question après la mort d'un des responsables du programme nucléaire. Le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ça va que ça se termine bien, mais il y a des moments où tu te dis, putain, si ça se termine mal, ça va pas être facile l'histoire. La mère qu'il y avait, c'était pas fastoche pour manœuvrer.
Cette voix, c'est celle de Jean Lecam, le héros du jour, navigateur évidemment très expérimenté. Il vient de sauver un autre concurrent du Vendée Globe, Kevin Escoffier, petit miracle en pleine mer cette nuit.
Kevin Escoffier qui était coincé sur son radeau de survie au cœur des 40e rugissants au sud-ouest du Cap de Bonne-Espérance. Il a donc été récupéré sain et sauf par Jean Lecam. Corinne Boulou, vous suivez le Vendée Globe depuis le départ. Toute l'opération de recherche a été incroyable.
Ah oui, il faut bien imaginer que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Jean Lecam arrive sur la zone du naufrage vers 17h. Il aperçoit alors Kevin Escoffier sur son radeau de survie, mais son bateau coule. La situation sur place est dantesque. Des creux de 5 à 6 mètres balayés par les vents tempétueux des 40e rugissants à l'approche de la longitude du Cap de Bonne-Espérance. Puis, Jean Lecam perd de vue Kevin Escoffier. La situation se complique. La direction de course appelle en renfort alors 3 autres navires. Yannick Bestaven, Boris Herman et Sébastien Simon pour quadriller la zone. La nuit est alors tombée sur la zone, éclairée quand même par la lune. Une course contre la montre s'engage et finalement, soulagement peu après 2h du matin lorsque Jean Lecam arrive à repérer une petite lumière dans la nuit. Au terme de 45 minutes, il récupère Kevin Escoffier. Le malouin de 40 ans a dû se jeter à l'eau pour se hisser avec les dernières forces qui lui restaient sur le tableau arrière du voilier de Jean Lecam.
C'est vraiment un film incroyable hein, que vous nous racontez, Corinne, des creux de 5 à 6 mètres. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il y a 11 ans, toujours sur le Vendée Globe, le sauveur d'aujourd'hui, Jean Lecam, avait lui-même été secouru par Vincent Rioux.
Oui, Jean Lecam, le Saint-Bernard des mers du jour, avait été lui-même secouru lors du Vendée Globe en janvier 2009 par Vincent Rioux dans son bateau retourné qui prenait l'eau non loin du Cap Horn. Clin d'œil du destin, c'est le monocoque PRB de Vincent Rioux qui l'avait sauvé. Et là, eh bien, cette nuit, c'est lui qui est allé au secours du monocoque PRB de Kevin Escoffier.
Merci Corinne Boulou. Et en tête du classement de ce Vendée Globe ce matin, Charlie Dalin.
Et on va continuer, vous savez quoi, avec des nouvelles positives ce matin. Les indicateurs du Covid continuent à s'améliorer. 4000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. On est loin des pics à 60 000. Au début du mois, 4000 aujourd'hui, vous l'avez entendu, la pression s'allège doucement sur les hôpitaux.
Alors comment faire pour continuer sur cette bonne voie? Quelles sont les mesures efficaces, celles qui le sont moins? Une très large étude permet de répondre à ces questions. Anne Le Gall, des chercheurs italiens et autrichiens, ont comparé 6000 de ces mesures prises dans 79 pays. Quelles sont les plus efficaces?
Alors les chercheurs ont utilisé 4 modèles mathématiques différents pour comparer ces mesures et les résultats concordent. Ce qui a fonctionné le mieux jusqu'ici pour limiter la propagation du virus, c'est d'abord l'interdiction des petits rassemblements familiaux ou festifs, puis la fermeture des établissements scolaires, notamment les lycées et les universités, ensuite la fermeture des frontières, les restrictions de déplacement et la distribution de masques. Le professeur Antoine Flao, qui dirige l'Institut de santé globale de Genève et que j'ai contacté, valide l'approche de ces études. En l'absence de vaccin, L'intérêt de ces travaux, dit-il, c'est qu'ils permettent de connaître les alternatives efficaces au confinement total d'un pays. Et l'on voit qu'il n'y a pas qu'une seule solution, mais plusieurs dispositifs qui se complètent.
Et quelles sont les mesures qui fonctionnent moins bien ?
Alors, parmi les mesures moins utiles qui apparaissent plus bas dans le classement, on peut citer par exemple la limitation des transports publics ou encore la désinfection des surfaces dans les bureaux ou à domicile.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, merci. Les autorités sanitaires ont publié hier leur calendrier pour la campagne de vaccination, en priorité les 750 000 personnes âgées vivant en EHPAD et les salariés de ces établissements les plus à risque, c'est-à-dire environ 100 000 personnes.
7h05 sur Europe 1, 2h devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin était entendu hier soir, notamment sur les violences policières de ces derniers jours.
Oui, auditionné hier soir le ministre de l'Intérieur sur les violences policières, on l'a dit. Et cette audition, elle était attendue dans un contexte de tension et de polémique autour du texte sécurité globale. Claudia Bertram a suivi cette audition pour Europe 1.
Et le ministre de l'Intérieur, son travail premier, c'est d'être devant les femmes et les hommes qui servent le ministère de l'Intérieur quand ça va bien. Et quand ça va moins bien.
Devant la commission, Gérald Darmanin joue l'apaisement, dénonce des actes inqualifiables à propos du passage à tabac de Michel Zecler. Des individualités ne sont pas un tout, dit-il, mais Gérald Darmanin reconnaît des problèmes structurels dans la police.
Il y a sans doute des comportements individuels, il faut les condamner. Il y a aussi peut-être des problèmes structurels qui ne datent pas d'hier et dont les femmes et les hommes politiques qui se sont succédés n'ont peut-être pas toujours su les résoudre.
Il évoque sept péchés capitaux parmi lesquels la formation des policiers, le manque d'encadrement, du matériel insuffisant et se dit prêt à tout étudier pour une évolution de l'IGPN, la police des polices, et sur le lien avec la population.
Moi je ne partage pas, mais c'est une conviction profonde extrêmement forte, le divorce qu'il y a entre la police et la population.
Le ministre qui réaffirme son soutien aux forces de l'ordre, interrogé par les députés sur l'article 24 du texte sur la sécurité globale, Gérald Darmanin reste sur sa position.
Moi, je ne suis pas un fétichiste des numéros. Je suis en revanche fétichiste de la protection des policiers et des gendarmes. Ils ne sont pas assez protégés, je le répète.
Le ministre de l'Intérieur prêt à un infléchissement sur la forme, mais pas sur le fond.
Claudia Bertram, et l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale sera totalement réécrit pour lever les doutes, décision de la majorité parlementaire.
L'affaire du meurtre de la petite Fiona qui revient devant la justice aujourd'hui. C'est cette fillette de 5 ans tuée par sa mère et le compagnon de celle-ci en 2013 à Clermont-Ferrand.
Oui, aujourd'hui se tient le 4e procès devant les assises de Lyon. La mère Cécile Bourgeon a déjà purgé sa peine de 5 ans de prison. Elle va comparaître libre. Elle a depuis refait sa vie. Jean-Luc Bourgeon.
Cette fois, pas de menottes au poignet ni d'escorte policière. Cécile Bourgeon arrivera libre tout à l'heure au tribunal, car voilà maintenant un an et demi que la maman de la petite Fiona a quitté la prison de Lyon-Corbas après avoir purgé une peine de 5 ans, infligée en première instance. Depuis, la jeune femme est partie vivre à Perpignan près de sa mère. Elle s'est mariée et a eu un nouvel enfant, une petite fille en février dernier, enfant immédiatement placé. Cette vie comme si de rien n'était exaspère au plus haut point Nicolas Chafoulet, son ancien compagnon et père biologique de Fiona.
Pour elle, aucun problème, tout va bien. Elle est à Perpignan à se faire dorer la pilule. Dans le degré de l'horreur, rien ne lui fait peur. Aujourd'hui, elle s'est mariée, elle a eu un enfant qui a été placé. Ça pose de problème à personne. Changer de planète, c'est pas possible.
Mais pour l'avocat de Cécile Bourgeon, maître Renaud Portejoie, cette liberté retrouvée peut modifier des choses devant un tribunal.
Dans le regard des jurés, cela change tout. Lorsque vous comparez ces détenus, entre deux policiers, vous avez beau rappeler aux jurés qu'ils doivent la considérer comme présumée innocente. Concrètement, c'est compliqué de se projeter là-dedans. Lorsque vous comparaissez libre, on est véritablement dans une situation qui est totalement différente dans l'esprit des jurés, j'en suis persuadé.
Voilà, Cécile Bourgeon qui, malgré tout, encourt toujours une peine de 30 ans de réclusion. Lyon, Jean-Luc Bourgeon, Europe 1.
Et le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé.
Ça va mal pour le secteur automobile. Nouvelle rechute en novembre, moins 27% pour les immatriculations. Le chiffre vient de tomber. Ce matin, sur Europe 1, on a choisi de vous proposer un premier bilan de cette année 2020, très impacté évidemment par la crise sanitaire.
Bonjour Aurélien Fleurot.
Bonjour.
Ce bilan, on va le faire avec vous. Il y a deux tendances fortes. La montée en puissance des voitures d'occasion et des moteurs électriques.
Oui, et si vous reprenez les chiffres de 2019, 2018, 2017, impossible de retrouver ce que l'on voit en ce moment en 2020. Ce mois de novembre, même perturbé en est une nouvelle preuve. C'est désormais une voiture vendue sur quatre qui est électrifiée. Alors, c'est un terme qui regroupe le 100% électrique, l'hybride et l'hybride rechargeable. C'était à peine 1 sur 10 en 2019. Et sur le marché de l'occasion, la baisse est bien moins forte qu'elle l'est sur le neuf. C'est encore vrai en novembre avec seulement moins 9%. Alors, ces deux phénomènes s'expliquent en grande partie par les bonus en faveur de l'électrique et puis la prime à la conversion élargie pour l'occasion avec des montants qui n'ont jamais été aussi élevés qu'en juin dernier.
Autre explication pour l'électrique, les constructeurs n'avaient pas le choix.
Oui, avec la réglementation européenne qui leur impose un seuil d'émission de CO2 moyen à ne pas dépasser, 95 grammes par kilomètre sous peine de très lourdes amendes. Et puis, c'est aussi une tendance sociétale. Pour un Français sur deux, le passage à l'électrique se fait pour la protection de l'environnement, alors que pour les véhicules d'occasion, même si là ce n'est pas chiffré, tous les experts que j'interroge m'expliquent qu'il y a forcément un effet pouvoir d'achat, soit en baisse à cause de la crise, soit eh bien, on épargne et on prend un peu moins le risque d'acheter une voiture neuve à 30 ou 35 000 euros.
Alors la ruée vers les voitures d'occasion, c'est une tendance de fond, vous le disiez Aurélien. D'ailleurs, de plus en plus de centres de reconditionnement sont créés pour les remettre en état. Écoutez le reportage de Jean-Gabriel Bourgeois près de Châtellerault dans la Vienne.
Voilà, elle est prête pour sa deuxième vie, un petit coup d'auto-séchon dessus et elle passe à l'étape suivante chez les expertises.
Un premier coup de Karcher avant de passer entre les mains des experts techniques. Tout est contrôlé, de la mécanique jusqu'à la moindre bosse sur le pare-choc.
En fait, il y avait un creux et avec les outils, moi, ce que je fais, c'est je vais aller chercher le fond de la bosse pour la ressortir.
Carrossier, soudeur, peintre, chaque ouvrier a sa tâche précise.
Là, les disques sont encore bons. Donc on change juste les plaquettes.
Dans cette usine de reconditionnement, la voiture d'occasion se refait intégralement une beauté avant de retourner sur le marché en un temps record. Vincent Gors est le directeur général du groupe Émile Frey France.
10 jours entre le moment où le véhicule part de la concession et le moment où il revient en concession pour être exposé.
C'est 3 fois moins de temps qu'en atelier classique.
Dédier une entité au reconditionnement des véhicules d'occasion nous permet d'industrialiser les processus de travail et nous avons ainsi pu recruter des profils moins spécialisés et générer une centaine d'emplois sur ce site d'Ingrandon.
Le groupe ambitionne d'implanter en France 4 à 5 nouveaux centres de reconditionnement de véhicules d'occasion d'ici quelques mois. Ingrandon sur Vienne, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Alors Aurélien Fleureau, vous êtes toujours avec nous. Sur le marché de l'occasion, ce sont encore en majorité des moteurs thermiques. Mais le diesel perd encore du terrain en 2020.
Oui, ça ne représente plus que 30% du marché sur les 11 premiers mois de l'année. C'était le double en 2015. Conséquence, les émissions de CO2 baissent, 95 grammes en moyenne contre 100 en fin d'année dernière, mais cela ne sera pas suffisant pour rouler au diesel dans certains centres-villes et même dans des zones bien plus larges puisque la métropole de Lyon vient d'annoncer il y a à peine 2 semaines que le diesel et ses particules ultra fines seront bannis à partir de 2025.
Merci pour ce grand dossier Aurélien Fleureau.
Et hier matin avec Nicolas Barret, nous parlions de l'hybride rechargeable, l'hybride, l'électrique, la montée en puissance de ces modèles et de l'occasion aussi Aurélien Fleureau. Ce dossier sur ce marché de l'automobile très perturbé, c'est aussi ça le monde qui change. Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.